Merci Daniel pour ce petit morceau de musique d'introduction. Bonjour à chacun. Bienvenue à l'église évangélique de Mérin. Et nous espérons vivre un beau culte en ce dimanche. Quand on se rencontre en général avec les gens, on se serre la main. J'ai même vu à la télévision que M. Trump et M. Obama se sont serrés la main. La poignée de main, c'est un geste d'accueil. C'est un symbole aussi, quand même, je dirais, d'acceptation de l'autre dans ce qu'il est. Peut-être de partenariat. Ça peut être aussi un symbole d'amitié qui peut se doubler d'une bise ou d'une embrassade. Ça peut être un symbole d'unité. Alors ce matin, je vous propose qu'on se serre la main. Serrez la main devant, derrière vous. Bonjour à chacun. Voilà qui est fait. Et ce matin, nous voulons tout particulièrement serrer la main à nos chers Fanny et Tony Uketi. Peut-être levez-vous, il y a peut-être qui ne vous connaissent pas. Voilà. Avec les deux mains, on applaudit aussi. Qu'est-ce que c'est beau une main quand même. Qui nous viennent du Congo, qui nous reviennent du Congo. Ils s'ennuient un peu de chez nous, alors ils sont là. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avion, c'est relativement facile d'être là en quelques heures. Nous les entendrons tout à l'heure, en fin de culte, ils vont nous partager quelques nouvelles, et puis nous partagerons aussi avec eux un peu plus longuement dans ce qu'ils ont à nous dire, dans les questions, des réponses, le partage, le dialogue, lors du repas canadien, organisé en leur honneur tout à l'heure. Alors vous êtes tous les bienvenus, déjà à l'avance. Et puis bien sûr, nous serrons la main à notre orateur du jour, Daniel Bush, accompagné de son épouse, Laurence, qui l'accompagnera dans plusieurs petits déplacements ici. Merci tous les deux d'être ici. Daniel va nous apporter un message musical, comme on a été présenté la dernière fois, un témoignage, message, témoignage, accompagné de chansons. D'ailleurs, chansons l'accompagnent en ce dimanche. Bienvenue Daniel au milieu de nous. Prends la liberté que Jésus donne à tous ses enfants pour nous transmettre la parole que Dieu a pour nous aujourd'hui, ce matin. Et puis nous voulons vivre ce culte aussi avec, en communion avec plusieurs personnes. Nous pensons à Sylvain Dupertuis, qui est au Laos, pour le service de Dieu et la mission là-bas. Il reviendra cette semaine. Nous pensons à Régis Jeunecamp, qui doit être toute fébrile en pensant qu'elle rentre demain de Madagascar. Nous pensons aussi à Alexandre Pellet, qui est parti ce matin pour l'Afrique, au Bénin, je crois, pour apporter un enseignement médical sur le bateau Mercy Ships. Et puis c'est aussi, ce matin, on fête, c'est le premier anniversaire de cette tuerie incroyable qui a eu lieu à Paris l'année dernière. Il y a des dizaines de. Il y avait 90 personnes qui ont été tuées. Œuvre des ténèbres et de l'obscurité. Et nous voulons aussi, en tant qu'Église, être en communion avec tous ceux qui, dans cet anniversaire, souffrent, pleurent. J'ai lu plusieurs témoignages, vous l'avez certainement lu dans les journaux ailleurs, de ces gens qui ont passé par ces horreurs. Et je crois qu'on ne peut pas effacer ça. Et louer Dieu. Et dans notre louange, on vit aussi avec cela. C'est aussi un des dimanches de l'Église persécutée aujourd'hui, qui a été choisi pour penser spécialement à nos frères et sœurs. Ça ne va pas être le cas pour nous aujourd'hui, mais Roger m'a signalé qu'un de ces dimanches de décembre, il prendra ce sujet de l'Église persécutée pour penser à nos frères et sœurs chrétiens qui, eux aussi, souffrent de cette œuvre des ténèbres qui souffle sur notre monde. Alors, pour aller à l'encontre de cela, quelque part, je vous propose une lecture dans Jean, la première lettre de Jean, 1 Jean, au chapitre 1. Et il écrit à l'Église, aux chrétiens, à ses enfants, ses amis, « Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui a existé avant le commencement de toute chose, la parole de vie. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons regardée et nos mains l'ont touchée. Quand cette vie est apparue, nous l'avons vue, c'est pourquoi nous vous en parlons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez unis dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous disons que nous sommes unis à lui, et si en même temps nous vivons dans l'obscurité, nous mentons à la fois en parole et en acte. Mais, j'aime bien les mais, hein, mais, si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes unis les uns aux autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Nous sommes serrés la main tout à l'heure. C'était pour vivre ce temps de famille. Nous formons avec les autres communautés cette famille chrétienne, unie autour de la grâce et de cette vie éternelle qui nous a été proposée en Jésus-Christ. Je rappelle le verset 7. Si nous vivons dans la lumière, nous faisons obstacle quelque part à l'œuvre de l'obscurité qui nous entoure et qui est forte. Mais si nous vivons dans cette lumière, alors nous avons cette unité, et dans cette unité, nous vivons de la grâce de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour souligner cela, je vous propose qu'on chante un premier chant, « Tu es vie et lumière », le numéro 275. Et ensuite, nos amis, que je remercie pour la louange, nous entraînerons dans un temps de louange.
Je vous invite à vous lever.
à notre cher Olivier Wenger. Il est là, il est là, je crois, pour fêter un grand anniversaire pour lui. On ne va pas dire l'âge. Hein. C'est 30 ans. Bienvenue, Olivier. Mais vas-y, avec la passion.
Moi, j'aimerais aussi profiter pour souhaiter la bienvenue de retour à une personne pour laquelle on a prié plusieurs dimanches et puis qui est avec nous nouveau ce matin, c'est Marthe, c'est ma belle-maman qui est assise toute là-bas et puis qui est le premier dimanche de retour parmi nous. Bah, bienvenue et puis c'est dans la joie qu'on va t'accueillir, dans la reconnaissance parce que le Seigneur prend soin de toi. On va poursuivre avec un chant. Pendant le premier chant, on va directement commencer avec l'offrande, parce que, comme le disait très justement Paul Robert, c'est aussi une manière de louer le Seigneur puis de lui dire merci. Donc, on va enchaîner avec le Seigneur règne, et puis que chacun donne selon ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Seigneur Jésus, on veut te dire merci pour les biens que tu nous accordes jour après jour. On veut te dire merci pour ta bienveillance. On veut te dire merci parce que c'est toi qui nous accueilles aujourd'hui. C'est toi qui pourvois à chacun de nos besoins. C'est toi qui prends soin de nous jour après jour, dans le bonheur comme dans le malheur. Tu es là chaque jour. Et si on est là ce matin, c'est parce que dans notre cœur, chacun d'entre nous, on croit que tu es au milieu de nous. On croit que c'est toi qui nous donne la vie. On croit que c'est toi qui nous donne toutes choses. On veut te remettre l'offrande qui vient d'être récoltée. Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment la faire fructifier, la bénir, la faire qu'elle soit utilisée pour ta gloire seule. C'est ce qu'on désire, c'est voir ton règne s'établir sur la terre, c'est voir ton règne s'établir dans les cieux, c'est que tu sois le Seigneur de tout. Béni soit ton nom Jésus. Amen. Le roi dans sa splendeur.
Alléluia. manifester, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclats, la nuit essaye de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verrons, oh Dieu, Dieu, combien tu es grand. Qu'un âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous seront, oh Dieu.
Ô Jésus.
Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, cri de joie, terre entière. Adieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent, les l'immensité de ta grandeur, me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire.
La prédication, le sermon, le témoignage. Et je veux simplement prier pour lui. Daniel nous vient de l'église Fray, l'Espérance, quel beau nom pour une église, du Grand Nancy. Alors on va prier juste pour Daniel. Seigneur Jésus, tu bénis ton serviteur ce matin. Tu le gardes dans ta paix et surtout dans ta joie et dans cet amour que tu transmets. Et tu donnes toute la liberté afin qu'il nous donne les paroles que notre cœur peut entendre ce matin dans quelle que soit notre situation. Nous le bénissons en ton nom, avec Laurence à ses côtés. Amen. À toi, Daniel.
Voilà, bonjour à chacun. Je vous transmets pour commencer les salutations des personnes de l'Église de l'Espérance, effectivement. Et puis, je vais commencer aussi par un chant qui s'appelle l'Espérance et que je vous propose de vous chanter tout de suite. Alors, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, c'est le précédent. Voilà, merci beaucoup. L'espérance ne trompe pas. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? L'espérance ne trompe pas. Ceux qui s'adressent à Dieu et lui confient leur sort. Bien longtemps j'ai vécu sans savoir où j'allais, sans la moindre idée de ma destination. Mais dans ce monde entre gris clair et gris foncé, tes témoins m'ont montré que je pouvais espérer. L'espérance ne trompe pas. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? L'espérance ne trompe pas. Ceux qui s'adressent à Dieu et lui confient leur sort. Le Seigneur a aimé toute la création, au point d'envoyer son Fils bien-aimé sur cette terre pour apporter le salut et prendre soin de ceux qui se confient en Jésus. L'espérance ne trompe pas. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? L'espérance ne trompe pas. Ceux qui s'adressent à Dieu et lui confient leur sort. Ancre sûre et solide de notre vie, elle pénètre dans la présence de Dieu. Restons-lui fermement attachés, car celui qui nous a fait des promesses est digne de confiance. L'espérance ne trompe pas. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? L'espérance ne trompe pas. Ceux qui s'adressent à Dieu et lui confient leur sort. Voilà, je suis reconnaissant et très heureux d'être, pour être ici ce matin. Ce chant, l'espérance, fait partie d'un CD que j'ai eu le privilège de pouvoir enregistrer avec la collaboration et la complicité tout à fait remarquable de François Raymond, que d'aucuns connaissent ici aussi probablement. François qui fait partie du groupe Aslan. Et ce CD s'appelle Point de vue, il a été réalisé au profit intégral de la mission évangélique Braille. Et donc, merci. Et c'est pour cette raison que ce CD sera aussi à votre disposition à la fin de ce culte, à 20 francs l'exemplaire, au profit de la mission évangélique Braille. La mission Braille, très rapidement et brièvement, qu'est-ce que c'est ? C'est une mission qui s'occupe plus particulièrement des aveugles. C'est aussi pour cela que j'ai eu envie d'enregistrer ce CD à leur profit. Ce CD s'appelle Point de vue, ce qui est assez bizarre et peut-être un peu gonflé de la part d'un aveugle de vous proposer un point de vue, mais enfin pourquoi pas, hein, de nos jours on en fait d'autres. La mission Braille a pour objectif d'utiliser tout ce qui fonctionne encore chez les aveugles, c'est-à-dire notamment le toucher, c'est pour ça que ça s'appelle la mission Braille, et l'ouïe. À cause de ça, elle a un département qui est spécialement consacré au Braille, un autre qui est spécialement consacré à l'audio, et puis ça paraît bien technique tout ça. La mission Braille a quand même pour objectif de s'occuper de toute la personne des aveugles, et c'est pourquoi, à côté de son travail en Europe, elle effectue aussi des opérations en Afrique, participant avec tout un certain nombre d'organismes non gouvernementaux à des travaux d'alphabétisation, en fournissant le matériel, en fournissant aussi des hommes, en soutenant des personnes qui travaillent en Afrique pour que les personnes aveugles puissent retrouver une dignité intégrale, puissent s'intégrer au mieux dans la société, en apprenant notamment à lire et en apprenant aussi à faire des travaux particulièrement agricoles ou alors des travaux administratifs qui leur permettent aussi à eux de s'intégrer et d'être utiles dans la société. Ce matin, après ce préambule consacré à la mission, j'aimerais vous lire un texte qui m'a particulièrement frappé ces derniers temps et que j'aimerais partager avec vous. Il se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, et nous allons nous limiter aux versets 14 à 20 que je vous propose de lire maintenant. Il s'agit d'une histoire qui concerne le roi d'Israël, le roi de Syrie, et également le prophète Élisée. Et la Bible nous dit ceci. Le roi de Syrie donc, envoya à Dothan une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars, parce qu'il avait compris que c'est là que se trouvait Élisée. Donc il envoie une forte troupe avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et il sortit et il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria l'Éternel en disant, « Je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, comme Élisée l'avait demandé. Élisée dit aux soldats, « Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce n'est pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie, capitale du royaume d'Israël. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore. « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. » L'Éternel leur ouvrit les yeux et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Jusque-là, notre lecture. Ce texte met merveilleusement en évidence que dans la vie, finalement, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Vous connaissez l'expression « moi je crois seulement ce que je vois ». Il y a des gens qui l'ont dit. Ce texte insiste clairement sur le fait que la réalité est souvent différente, et souvent bien différente de ce que moi je parviens à en percevoir. Considérons ces quelques versets, en fait, sans laisser tomber le contexte quand même de ces événements. Le contexte nous est décrit dans les versets précédents qu'on n'a pas lu. Le roi de Syrie est en guerre contre le roi d'Israël, aidé ici par celui qu'on appelle l'homme de Dieu, Élisée, qui a le pouvoir de révéler au roi d'Israël toutes les manœuvres du roi de Syrie. Au point que le roi de Syrie finit par se poser des questions concernant un éventuel traître parmi les siens, et si bien que l'un de ses officiers fait allusion à Élisée en disant au roi, en lui parlant de ses pouvoirs qui déjouent les plans du roi de Syrie, et le roi constate donc qu'il n'y a pas de traître parmi eux, parmi les Syriens, et en conséquence, le roi va partir à sa recherche, à la recherche d'Élisée, et va finir par le trouver à Dothan. Et c'est là que se passe cet épisode. Nous avons affaire, dans cet épisode, dans les versets 15 à 20, à deux hommes qui, tous deux, voient, mais qui ne voient pas la même chose. Le fait de pouvoir voir définit probablement d'emblée qu'il y a aussi un certain nombre de choses qu'on ne peut pas voir, des choses invisibles, des choses que nous ne savons percevoir. Et quand on réfléchit à nos cinq sens que Dieu nous a donnés, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, on peut partir de l'idée qu'il existe forcément aussi des choses qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Nos cinq sens nous permettent certes de percevoir un certain nombre de choses, mais pas forcément de tout percevoir. Et pour percevoir ce que normalement on ne perçoit pas, les hommes ont dû créer des appareils auxiliaires pour voir ce qui est tout petit, par exemple, pour rapetisser ce qui est beaucoup trop grand, ou bien pour entendre les infrasons qu'on n'entend pas normalement, ou les ultrasons. Tout ça, il fallait créer des appareils auxiliaires. Alors, voyons le cas du serviteur d'Élisée ici présent. Que voit-il? Et qu'est-ce que ça va lui inspirer? Il voit une troupe nombreuse de gens qui entourent la ville où il se trouve, avec des chevaux et des chars, donc tout ce qu'il faut pour attaquer, et pour attaquer sérieusement. Alors, que lui inspire ce qu'il voit? Qu'est-ce que ça lui inspire? Eh bien, ça lui inspire de la peur, de la perplexité, qui s'exprime d'une part par une exclamation « Ah, mon Seigneur !» et puis par une interrogation aussi « Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ?» Je ne sais pas si c'est une expression qui sonne dans vos oreilles « Ah, Seigneur ! Ah, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Si ce serviteur avait de l'espérance, comme on a chanté tout à l'heure, il ne doit plus en avoir après ce qu'il a vu. Et souvent, nous aussi, sommes confrontés à des moments où nous n'avons que cette question dans la tête et cette exclamation « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette situation où je me trouve ?» Eh bien, si dans cette situation, le serviteur du prophète se confie en lui-même, il n'a aucun pouvoir. Donc, il n'a aucun espoir non plus. Il n'a rien à proposer pour résoudre cette situation qui lui échappe totalement. Et ça, en plus, ça va le paralyser et ça va lui inspirer de la peur. Et nous avons certainement été déjà confrontés à ce genre de situation, de peur, de perplexité, de questionnement devant des décisions que nous ne savons pas prendre. Nous aussi, si nous cherchons en nous-mêmes les moyens de nous en sortir dans ces situations-là, dans des circonstances pareilles, nous serons déçus et il nous restera la peur, il nous restera la perplexité, il nous restera l'absence total d'espoir. Mais si le serviteur se confie en son maître, en l'occurrence le prophète, là, le prophète va le rendre attentif à la puissance de Dieu. Il commence par conseiller son serviteur en lui disant « N'aie pas peur, n'aie pas peur parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Mais pour le serviteur, cet argument, c'est un argument gratuit. Hein ? Qu'est-ce que ça va changer ? Ça va peut-être essayer de nous faire baisser un peu l'adrénaline, mais c'est totalement gratuit. Et le prophète le sait bien, d'ailleurs. Alors Élisée intercède. Élisée intercède auprès de Dieu pour son serviteur et lui dit au Seigneur, « Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et aussitôt, ce serviteur a une perspective totalement différente. Il découvre toute la protection que l'Éternel accorde à Élisée, avec des chevaux et des chars, de feu cette fois, c'est-à-dire encore autrement plus puissant que ce qu'il a vu précédemment. Et ça, c'est remarquable de voir que nous aussi, quand nous passons peut-être dans une période où, après avoir vu les choses bien clairement, après avoir vu notre chemin, tout d'un coup, nous n'y voyons plus rien concernant notre situation, concernant un problème particulier, concernant quelque chose qui nous contrarie, le plan ou l'intention de Dieu. Et ce problème peut être de nature individuelle et très personnelle, mais ce problème peut même être collectif et tout un groupe. Une église peut-être ne sait plus quelle décision prendre dans telle ou telle situation, collectivement. Comment s'orienter pour rester, pour demeurer dans le plan de Dieu. Ça peut nous arriver à tous. Alors dans cette situation, ne détournons pas les yeux de Dieu. Dieu peut nous éclairer, Dieu veut nous éclairer. Il va nous donner suffisamment de lumière pour que nous puissions progresser sur le chemin et aller de l'avant. J'aimerais vous chanter maintenant un chant qui s'appelle « Brouillard » et c'est un chant qui essaie de décrire un peu cette peur, cette perplexité qui va jusqu'à l'abattement, qui va jusqu'à la dépression quelquefois, qui va jusqu'à désespérer totalement de la situation. Alors je vous propose de chanter ce chant qui s'appelle « Brouillard ».
S'en va et moi qui désespère. Que m'apporte la vie, faut-il encore y croire? Quand ma seule compagnie reste un épais brouillard. J'ai peur et je ne sais plus où je peux aller. Je ne vois devant moi que le bout de mes pieds. Parfois une éclaircie me laisse un faible espoir. Mais très vite il s'enfuit redevient noir. Je vis en équilibre sur une corde raide. J'ai besoin d'un secours. Je ne vois aucune aide. Une force invisible à terre veut me jeter. Comment vais-je tenir, où puis-je m'accrocher ? je vais tomber, je n'ai plus de repères. L'angoisse me reprend, je pleure sur ma misère. Le fardeau devient lourd et le vide m'attire. J'ai froid, je suis perdu. Qui peut me retenir? S'il y a des jours comme ça où rien ne paraît clair, y a tout qui s'en va, si même je désespère. Tu me dis de placer toute ma confiance en toi, d'avancer sans savoir et de garder l'espoir. Tu me dis de placer toute ma confiance en toi, d'avancer sans savoir et de garder l'espoir malgré ce brouillard qui m'entoure de toutes parts, ce brouillard qui m'empêche de voir.
Malheureusement, Dieu ne nous montre pas toujours la réalité telle qu'elle est, comme il l'a fait pour ce serviteur grâce à la prière d'Élisée. Et quand Dieu ne le fait pas, eh bien, il fait directement appel à notre foi, comme exprimé un peu dans la fin de ce chant. Ce que nous ne voyons pas, la délivrance, la protection du Seigneur qui est toujours présente, sa sollicitude, son amour dans certaines circonstances, eh bien Dieu nous demande de le croire. Et dans la Bible, Job est l'exemple par excellence d'une telle mise à l'épreuve de la foi. Quand on lit ce livre, on s'aperçoit que pendant longtemps, Job n'a pas compris pourquoi il était éprouvé d'une manière aussi rude et aussi difficile. Et c'est étonnant de voir aussi, en parcourant ce livre, que Dieu n'a finalement jamais répondu au pourquoi de Job. Mais pourtant, Dieu lui a fait comprendre combien Dieu était le tout autre, combien Dieu était le tout puissant, combien c'est lui qui était aux commandes de toute la création. Et Job a fini par l'accepter, et Job a fini par le comprendre. Job a aussi recouvré ses biens, certes. Et Dieu l'a abondamment béni. Mais dans cette épreuve de la foi, Job n'a pas trouvé le pourquoi de ses questions. Par contre, il a trouvé une réponse que différente de celle qu'il attendait et que Dieu lui a accordée. Les versets 18 à 20 de notre passage nous montrent aussi l'opération inverse qui consiste à aveugler quelqu'un. Et les Syriens ont été aveuglés d'abord dans un premier temps, suite à la prière de l'homme de Dieu. Puis Dieu, sur la prière du prophète, a à nouveau ouvert les yeux de ces personnes. Lorsqu'elles se trouvaient à Samarie, potentiellement prisonniers du roi d'Israël, qui, nous le verrions si nous lisions la suite, d'ailleurs, a failli être cruel et dur avec eux. Mais grâce à cet aveuglement et grâce à cette nouvelle découverte qu'ils ont pu constater, les Syriens ont pu faire l'expérience de la bonté de Dieu qui, au lieu de les livrer aux Israélites, leur a donné à manger, lirions-nous plus tard, et les a fait renvoyer chez eux. Grâce, cadeau, totalement immérité de la part de Dieu qui nous rappelle à nous aussi, ou qui doit nous rappeler, la grande grâce dont nous bénéficions chaque jour de notre vie. C'est donc bien Dieu qui donne la vue, c'est aussi Dieu qui, dans certaines circonstances, empêche de voir, mais son but n'est jamais de nous orienter vers les ténèbres, mais bien vers la lumière. « Tu es vie et lumière », avons-nous chanté au début de ce culte. Jésus, envoyé de Dieu pour nous sur cette terre, est venu faire tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, et cela par pure grâce. C'est un cadeau. Il est venu régler le problème gravissime du péché, de notre séparation d'avec Dieu, qui obscurcit toute chose. Jésus, ce Jésus nous affirme pendant dans son enseignement, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Nous pouvons découvrir ça dans Jean au chapitre 8 et au verset 12. Et j'aimerais vous laisser encore pour conclure ce verset de l'Épître aux Hébreux qui nous engage vivement à tenir compte de ce conseil et à le suivre. Dans le début de ce chapitre 12 au verset 2 du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, il est dit ceci, « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui le porte à la perfection. » Si nous nous demandons comment nous pouvons croire et de quelle manière nous pouvons le faire, sachons que Jésus est la lumière du monde et qu'il veut nous donner la lumière de la vie. À nous donc de faire ce qui est nécessaire pour capter cette lumière, c'est-à-dire que Jésus nous propose de nous orienter vers lui et de garder notre boussole orientée vers lui en gardant les yeux fixés sur lui, lui qui va mener notre foi à la perfection. J'aimerais encore vous chanter un chant, le chant titre de cet album qui s'appelle « Point de vue ». C'est une manière à la fois récréative d'exprimer un peu mon témoignage, ou au moins partiellement mon témoignage, mais tout en étant récréatif, c'est quand même un peu sérieux aussi. Point de vue.
Un de mes objectifs était d'apprendre à tenir sur un vélo. Moi qui ne peux pas voir, comment enfin pouvoir faire comme les autres sans tomber sur le dos. Mais un jour, j'ai pu réaliser que pour rester en équilibre, fallait ôter la béquille, se mettre à pédaler pour parvenir à se déplacer. Moi je dis à ceux qui ont besoin de boire pour croire que bien souvent, le plus important n'est pas ce qu'on peut voir. Si nous commencions enfin à croire pour voir un peu plus clair, je suis sûr que pourrait mieux s'expliquer plus d'un mystère. Les jours, je dois prendre le train pour tenter d'arriver à l'heure au bureau. Sur qui pourrais-je compter? Qui va m'accompagner pour affronter la jungle des travaux? Et tout à l'heure, je dois voir un ami que je n'ai pas revu depuis mon enfance. Comment saurais-je que c'est lui? Qu'aurais-je comme garantie? Pas d'autre choix que de faire confiance. Moi je dis à ceux qui ont besoin de voir pour croire que bien souvent, le plus important n'est pas ce qu'on peut voir. Si nous commencions enfin à croire pour voir un peu plus clair,
Je suis sûr que pourrait mieux s'expliquer plus d'un mystère. On nous dit que la terre est ronde, et moi sans le voir, je dois bien le croire. Mais comment accepter que toutes les merveilles de ce monde soient le simple produit du hasard? Voilà pourquoi moi je dis à ceux qui ont besoin de voir pour croire que bien souvent, le plus important n'est pas ce qu'on peut voir. Si nous commencions enfin à croire pour voir un peu plus clair, je suis sûr que pourrait mieux s'expliquer plus d'un mystère. Voilà pourquoi moi je dis à ceux qui ont besoin de voir pour croire que bien souvent, le plus important n'est pas ce qu'on peut voir. Si nous commencions enfin à croire pour voir un peu plus clair, je suis sûr que pourrait mieux s'expliquer plus d'un mystère. Alors, au lieu de nous interroger tant et plus, si nous pouvions au passage écouter peut-être un autre point de vue, heureux tous ceux qui croient sans avoir vu.
Merci beaucoup, Daniel, de ce que tu nous as apporté ce matin. Et je vous propose simplement d'avoir un petit moment d'appropriation de ce qu'on a entendu. Et ensuite, on peut s'exprimer en prière libre, si quelqu'un veut le faire à haute voix, ou plusieurs. Ô Dieu de lumière, en Jésus-Christ, nous voulons te remercier pour la création et comment tu nous as fait avec nos cinq sens. Nous te remercions parce que c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux. Et pourtant, Seigneur, cela ne suffit pas. Tu nous donnes à ceux qui le désirent, à ceux qui l'accueillent, cette espèce de sixième sens de la foi, pour accepter, croire et avoir cette espérance en cet amour, en ce Dieu qui veille sur nous et qui tient toutes choses dans ses mains. Aide-moi, Seigneur, à croire sans voir. Amen. 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 Amen.
Quelle leçon, Seigneur, Daniel nous donne ce moment, et je veux le bénir en tout. Mais Seigneur, je demande que tu nous donnes cette humilité d'accepter de ne pas tout comprendre, mais que nous puissions grandir dans la foi, dans la confiance, dans ce Dieu qui a fait de nous ses enfants à un prix tellement grand qu'on ne puisse plus douter. Qu'on ne puisse plus douter qu'il lui sait ce qui est bien pour nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet encouragement que tu nous donnes ce matin dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Amen.
Seigneur, c'est vrai que des fois notre cœur ne te voit pas, mais tu es là. Seigneur, merci d'accepter par la foi, accepter cette présence qui est là autour de nous, bien plus grand nombre que ceux qui, que l'ennui qui est là. Seigneur, merci parce que tu es près de nous, jour après jour, minute après minute. Seigneur, j'aimerais aussi te remercier pour ce témoignage de Daniel Ivanos. Seigneur, vraiment, tu les bénis et merci pour cette bénédiction qui nous amène.
Amen. 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 Je vous propose, comme ça, de chanter ensemble ce chant 576, Je loue ton nom éternel. Parce que vraiment, nous avons beaucoup de choses qui vont nous pousser à louer notre Seigneur avant de prendre et de partager le repas qu'il nous propose. Composé de choses que l'on peut voir, mais je vais dire à Daniel qu'on peut aussi goûter, sentir, toucher. Mais ce qui est vraiment le fond de ce repas, le signe, c'est quelque chose, comme l'a si bien dit Daniel, qu'on ne voit pas. Même nous, dit bien-voyants, on peut le voir qu'avec les yeux du cœur. Et c'est avec ces yeux du cœur que je vous propose de partager aujourd'hui ce repas qui nous rappelle, qui nous font nous souvenir de ce qu'a fait Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Nous voulons tous prendre ce repas si nous confessons dans notre cœur et devant les autres que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Venez. Prenez, mangez, tout est prêt. Daniel, toi.
Et je vous propose de lire ce que nous dit la Bible dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 22. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples, en disant, « Prenez ceci, est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit, « Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Jusqu'au verset 25.
Prions. Seigneur, augmente-nous la foi. Afin que, au travers de ces signes que tu nous donnes, le vin comme ton sang, le pain comme ton corps, nous puissions tous rediscerner comme tout à nouveau tout l'amour que tu as déversé pour nous, sur nous, à la croix. Oui, reçois notre reconnaissance. Amen. Si quelques-uns, Daniel, Claude, peut-être toi, pouvaient nous donner un coup de main pour distribuer le pain et le vin. Alors, au milieu des plateaux, dans les gobelets roses, c'est du jus de raisin. Pour ceux qui désirent la coupe, faites signe à Roger Sewell qui vous l'apportera si vous préférez la coupe plutôt que les petits godets. Voilà.
L'invisible est pour tous que l'invisible est plus précieux que le visible. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour les biens que nous accordes, par l'amitié que nous pouvons échanger, par la grâce dont tu nous comptes, par tout cela que nous recevons chaque jour, Seigneur. Oui, tout cet invisible est beaucoup plus précieux.
Amen. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu de la vie. C'est comme le pain de la route qui nous donne sens à la vie, qui ouvre nos horizons et qui consolide nos espérances. Merci pour ta parole qui nous rejoint, pour la communion des frères et des sœurs, pour l'espérance qui nous fait vivre. En Jésus, notre Sauveur. Amen.
Amen. Amen.
Je vous propose que nous nous levions pour recevoir la bénédiction du Seigneur avant de poursuivre notre rencontre. Que le Seigneur soit avec vous dans vos situations, qu'il vous rencontre là où vous en êtes. Il est capable de le faire, il l'a déjà fait et il le fera encore et il nous aidera chacun à progresser. Je vous laisse ces paroles bien connues de 2 Corinthiens 13:13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que le Seigneur bénisse le reste de cette journée et continue à accompagner chacun. Amen.
Merci Daniel. Voilà, nous allons poursuivre. Le culte est terminé. Thank you. nous allons poursuivre, malgré tout, dans ce temps de partage, premièrement avec les annonces qui seront données, je crois, par Michel. C'est juste, Michel ? Et ensuite, place à Tony et Fanny, qui vont venir nous partager quelques nouvelles de leur, on peut plus dire voyage, hein, parce que de leur pays, le Congo, et de ce qu'ils y font l'un et l'autre. De manière peut-être pas trop longue, parce que je pensais qu'on aurait terminé un peu plus tôt, mais voilà. Alors, simplement, sentez-vous libre. S'il y en a qui doivent nous quitter, ils quittent. Mais simplement, ça risque de durer un peu plus que la demi. Hein. Merci. Alors, Michel, merci.
Voilà, alors tout de suite ou presque, le repas canadien. Tout à l'heure, vous êtes les bienvenus, même si vous n'avez rien prévu, il y a toujours abondance. Tout à l'heure, au CEPOM, à 17h30, la compagnie de la Marelle, un zachet humoristique, semble-t-il, avec une série en sketch, mais pas que, dit le programme, pas que humoristique. Et puis, je vous resignale encore cette action des groupes bibliques universitaires à Unimail à Genève, une série de 4 conférences. On est impliqué comme église. Merci à celles, je crois que c'est que des femmes, qui ont accepté de faire les 150 sandwichs qui nous étaient demandés pour une conférence. Hein, ils attendent quand même du monde. Et puis, l'autre aspect pour lequel les GBU nous ont interpellés, c'est de porter dans la prière cette action dans le cadre de l'université. Alors, pensez-y pendant ces quelques jours qui viennent. Mardi 15 novembre, le fil d'argent, une action particulière en relation avec la recherche du pasteur, un temps de prière et convivialité à 14h30 mardi. Mercredi 16 novembre, c'est la confection, le dernier jour pour la confection des paquets de Noël, une action avec la mission chrétienne dans les pays de l'Est. Vous pouvez vous inscrire pour cela sur le tableau qui est à la sortie sur la droite. Merci. Et dimanche prochain, culte de baptême avec 3 baptisés. On se réjouit de les accompagner pour ce temps particulier et de pouvoir vivre ces baptêmes. Je pense, hein. Je ne sais pas, c'est top secret encore, il faut venir pour savoir. Peut-être c'est une manière, c'est un peu teasing comme ça. Alors, il y a Lauriane, il y a Ludovic et il y a Claude. Ah.
Juste pour dire, pour le spectacle du CEPOM, c'est 17h.
C'est 17h ? Ah, d'accord. Alors, au CEPOM, à 17h. Et puis, vendredi 25 novembre, le colloque à 20h15, une occasion non seulement de voter, mais également d'être tenu au courant. Il y a tout un aspect information sur la vie de l'Église qui sera présentée. Et déjà, les repas de l'Avent, le repas de l'Avent du fil d'argent, vendredi 6 décembre, vous pouvez vous inscrire, vous êtes prié de vous inscrire, auprès soit de Marianne Pfund, soit d'André Dufour. Alors là, c'est un acte de foi. C'est juste, hein ? Oui, oui. À la sortie, il y a des enveloppes, parce qu'il y a un envoi, ben, entre autres, en relation avec le colloque, et puis également d'autres informations. Donc, à la sortie, les enveloppes. Merci, Zéna. Ne les oubliez pas, n'oubliez pas de les prendre.
Juste, j'ai une demande pour dimanche prochain, donc il y a les baptêmes, et Lauriane se fait baptiser pour ne pas faire la garderie, elle était prévue pour la garderie. Il y a André Dufour qui s'est généreusement proposé, il faudrait une deuxième personne pour accompagner André pour la garderie dimanche prochain, donc vous pouvez voir avec André. Alors c'est bon, eh ben, alors c'était inutile, merci.
Voilà, Fanny et Tony, vous êtes les bienvenus. Alors, Tony.
Ok. Et merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Ça fait exactement 5 mois et un jour que nous nous sommes retrouvés ici pour partager le repas d'au revoir ensemble. Et en fait, elle ne vous avait pas dit qu'on avait prévu de revenir 5 mois après. Et en passant par Genève, en fait, notre destination finale, c'est Londres, puisque nous allons passer plus de jours là-bas, avec notre fils aîné et son épouse Liliane, que peut-être vous connaissez aussi. Et en fait, ils attendent un enfant et nous voulons être présents. Et donc, voilà. Et je ne sais pas si la technologie va marcher tout petit peu là, voilà.
En direction de la droite. Tony.
Oui.
En direction de la droite.
Ah oui. Ça marche ? Non. Ok, voilà. La dernière diapositive, une des diapositives que nous vous avions présentées la fois passée, le 12 juin, c'était notre avenir. Et vous voyez là-bas la carte de la RDC, c'est là que nous avions décidé de rentrer. Et au cœur de l'Afrique, et comme vous voyez là-bas, c'était grand pays, et nous avions décidé d'aller dans une petite ville qui s'appelle Bunia, au nord-est du Congo. Et la première chose, quand nous sommes rentrés, c'était de visiter des églises dans la ville de Bunia. Et le premier culte auquel nous avons pris part, c'était le culte francophone de la communauté évangélique au centre de l'Afrique, du quartier Lumumba, dans la ville de Bunia. Et puis, après ça, le deuxième dimanche, nous sommes allés au culte francophone de la communauté Emmanuel, toujours dans la ville de Bunia, c'est le culte francophone. Et puis, le troisième dimanche, nous sommes partis maintenant au culte Swahili de la communauté évangélique. Et là, c'était à Sukisa. Pourquoi? Puisque c'est là que j'avais rencontré Fanny. Et c'est là aussi que Fanny et moi, nous étions baptisés. Donc, c'était quand même important de pouvoir regagner l'endroit qu'on avait vu depuis des années. Et enfin, juste derrière notre maison, nous avons encore une autre église, c'est l'église de la CK20, et nous sommes partis au culte Swahili. Et avec toutes ces visites, on a finalement décidé de faire partie de la première église au niveau de la CK20 en ville, c'est le culte francophone. C'est là où nous sommes maintenant devenus membres. Maintenant, je passe le micro à Fanny, qui va vous donner très brièvement ce qu'elle a pu faire durant les 5 derniers mois. Je peux faire pour vous?
Oui.
Prends le téléphone. Allez,
bonjour. Bonjour. Oui, c'est pour moi vraiment une joie de vous retrouver, de revenir ici et encore vivre ce culte ensemble avec vous. Ça fait un peu bizarre d'être ici, mais de ne pas être chez nous. Au passage de la fin, nous sommes bien logés chez Denise et Raymond Félix. Et vraiment, nous sommes heureux d'être là. Alors, quand nous sommes retournés au Congo, nous avons bien dit que moi, j'allais m'occuper du SEMADEF qui est soutenu par Asafi. Et c'est ce que j'ai fait. 5 mois semblent être vraiment courts pour donner... pour faire beaucoup d'activités, et pourtant, nous avons quand même fait quelque chose. Donc, le SEMADEF, comme peut-être vous connaissez, les autres ne connaissent pas, couvre maintenant tous les territoires de la province de l'Ituri. L'Ituri est devenue maintenant province. Avant, c'était un district de nord-est du Congo, mais maintenant, c'est une province avec 5 territoires. Et le SEMADEF s'est installé dans chaque territoire avec 2 centres, sauf le territoire de Mambasa, qui n'a qu'un centre. Pourquoi? Parce que Mambasa est couvert de la forêt, donc il n'y a pas beaucoup de centres actifs. Donc on a décidé d'ouvrir le SEMADEF seulement à Mambasa. Alors la province de l'Ituri a à peu près 6 millions d'habitants. Donc, c'est presque la Suisse. Hein? Et puis, Alors, quelles sont les principales réalisations pendant ces 5 derniers mois? Alors, quand je suis arrivée, bon, il faut commencer d'abord à mettre de l'ordre dans la cuisine. Hein. Alors, donc, ça fait longtemps que j'ai vécu ici, j'ai parti pour un mois, mais je ne connaissais pas tous les coins de ma cuisine. Alors, ce que j'ai fait, c'est de commencer d'abord à voir qu'est-ce qui manque ici, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, ce que je ne faisais pas avant. Alors, nous avons commencé la restructuration d'abord du comité directeur, ça c'est mon bureau, parce que ces bureaux n'existaient pas réellement, parce que j'ai commandé un peu les choses par téléphone à partir de la Suisse, vous imaginez. Donc j'ai donné juste les directives, mais il y a une coordinatrice qui s'occupait de ces bureaux-là. Et maintenant, comme moi-même je vais vivre là-bas, il fallait vraiment restructurer ces comités et aussi créer ces bureaux qui va diriger maintenant tous les autres centres du SEMADEF, parce que Bounia, c'est le quartier général. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis, comme nous avons maintenant 9 centres, y compris Bounia, donc il y a 8 centres qui sont loin de Bounia, et nous avons commencé la supervision. Comme je dis, il faut revoir la situation pour pouvoir mettre de l'ordre. Alors, nous sommes partis faire la supervision de nos 8 centres dans les districts, dans les territoires que nous avons montrés. Donc, c'est vraiment des milliers de kilomètres, plus de 1000 kilomètres pour aller et 1000 kilomètres pour les retours. Donc, on a fait ça et, pendant quelle saison? C'est la saison pluvieuse. Et l'état de la route, ce n'est pas à décrire. Vous allez peut-être voir plus tard. Alors, encore, nous sommes partis à Kinshasa. C'était pour des raisons. La première raison pour moi, c'est d'abord d'aller voir aussi les documents administratifs, parce que actuellement, avec la nouvelle province, il y a beaucoup de choses qu'on a changées. Il fallait avoir renouvelé l'autorisation de fonctionnement, s'enregistrer au niveau national. Et il y avait beaucoup de choses. Et de loin, nous sommes à 2000 kilomètres de Kinshasa, vol d'oiseau. Et tout est concentré à Kinshasa. Pour aller chercher les visas, il faut aller à Kinshasa. Pour aller faire les documents administratifs, il faut aller à Kinshasa. Donc, vous payez à peu près à l'équivalent du voyage Europe aller-retour. Et là, il faut dire que nous sommes à l'intérieur du pays. Et donc, c'est pas très facile, mais nous avons fait ce voyage-là, ensemble avec Tony. On en a profité également pour demander maintenant les visas pour revenir en Suisse, parce qu'on n'avait plus de cartes. Alors, ça, c'est ce que nous avons fait. En privé, à côté, en tout cas, je n'avais pas beaucoup parlé de ça. J'ai commencé un projet d'élevage de poules. J'aime bien. Alors, mon fils Serge est en train de m'aider à faire cela. Nous avons à peu près 2500. Hein? Oui, vas-y. Alors, comment je fais? Parce que la race que j'ai là, c'est une race qui n'est pas vraiment à Bounia. C'est une race locale, mais améliorée, que les gens aiment très bien. La race locale, elle est très bien, elle est bonne, mais elle est un peu dure. Alors là, ça donne un peu plus, c'est-à-dire, c'est le même goût que les gens cherchent, mais un peu tendre. Alors, c'est vraiment une race qui est adaptée au milieu, et puis, il y a les œufs que les gens aiment très bien. Donc, l'objectif pour moi, c'est aussi de baisser les prix des viandes de poule à Bounia, parce que ça coûte très cher. La viande de poule, c'est du luxe à Bounia, et c'est donné seulement aux visiteurs. Et quand c'est pendant la fête de la cérémonie de mariage, c'est seulement à la table d'honneur. Alors, moi, je dis, pourquoi ça? Tout le monde doit manger quand même la viande de poule. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire produire plus pour que les prix baissent et que les gens mangent quand même la viande de poule. Alors là, c'est l'équipe, c'est-à-dire nous avons créé aussi du boulot aux jeunes gens qui étaient désœuvrés, qui n'avaient absolument rien. Alors mon fils Serge, il est là, je crois, quatrième à partir de la droite. Alors il est très bien avec ce jeune, et il encadre le jeune autour de ses projets. Et franchement, on a vu que c'était un projet utile, parce que ça donnait du boulot aussi aux jeunes désœuvrés. Et là, c'est son bureau. Et en plus de cela, comme il y a des poules, il faut aussi avoir de quoi les nourrir. Donc là, on a commencé un champ de maïs et de soja. Et puis j'ai aussi des champs où j'ai fait la culture maraîchère. Donc c'est-à-dire les légumes que nous mangeons chez nous, ça vient de notre jardin. C'est pas un petit jardin, mais c'est grand. C'est grand. C'est à peu près 50 sur 90. Et j'avais acheté des graines ici pour aller essayer. Donc, on a des coriandres, des persils, on a des salades, on a les cressons. Tout pousse très bien là-bas. Donc, je ne manque absolument rien. Ouais. Donc, voilà ce que nous faisons. Et Tony, ce qu'il a fait, bon, lui-même, il va dire ce qu'il a fait. Hein.
Merci beaucoup. Comme vous savez, j'avais dit ici, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire et j'allais accompagner Fanny. Et voilà. Quand je suis arrivé, la première chose d'abord, c'était la visite des institutions, des agences locales, le CME, c'est le Centre Médical Évangélique, là j'avais travaillé avant, l'USP, c'est l'Université Shalom de Bounia, qui est une transformation de l'école de théologie de Bounia, et puis je visite également les institutions de la CK20, qui est notre communauté d'origine. Et là, c'est en fait la photo de l'ISTM, une institution qui forme les infirmières qualifiées, et nous étions là. Et comme conséquence de toutes ces visites, premièrement, on m'a dit, bon, d'accord, on m'a offert un job, que je devais être le médecin traitant au CME. Je me suis dit, je ne sais pas, ça fait depuis 2008 que j'avais touché aux malades. Donc, et puis après, on m'a aussi offert le poste de vice-doyen chargé de recherche à l'Université Shalom de Bounia. Et là, j'étais vraiment stupéfait, puisque je ne m'attendais pas à ça. Et après, on m'a offert le poste de directeur général à l'Institut technique de la CK20 à Réti. Pourquoi ? Parce que le directeur qui était là, l'Androma, il était malheureusement décédé. Et j'ai décliné toutes ces offres puisque je n'étais pas préparé. Et deuxième chose que j'ai faite, je crois que c'est là. J'ai fait en fait... Ce que je faisais plus quand j'étais ici à Genève, c'était d'appuyer les ministères de la Santé. Les Ougandais qui sont nos voisins, ils ont beaucoup aimé les temps qu'on a passé ensemble. Et ils ont continué à m'inviter, même si j'étais déjà à la retraite. Donc, en août, nous sommes partis à une réunion, ils m'ont invité, ils ont payé pour ça. Et puis après, nous avons eu en octobre une réunion transfrontalière entre les Congolais et les Ougandais. Et ça, j'ai beaucoup aimé puisque... J'avais quand même une expertise dans ce domaine. Et là, c'est juste la réunion de Kampala au mois d'août, après des bonnes réunions, bien sûr, au bois et aux danses. Et après ça, autre chose que j'ai faite, c'était des consultations. Ce sont des organisations internationales qui m'ont invité. D'abord, l'OMS, en juillet, 3 semaines après notre arrivée, j'ai reçu une invitation. Il fallait que j'aille à Ouagadougou. Et je suis allé au mois de juillet pour la fermeture du programme pour lequel je travaillais. Il a été remplacé par une autre organisation. Et puis, en octobre, j'étais venu ici à Genève pour 2 jours et demi. Malheureusement, j'étais arrivé un dimanche. À la fin du culte, je ne pouvais pas vous dire bonjour. Le lundi, le 17, on a eu la réunion. Et le 18, mardi, je suis reparti. Quelques personnes seulement ont su que j'étais à Genève. Et puis enfin, il y a MDP qui m'a invité au mois d'octobre en Afrique du Sud, à Durban. J'ai fait 5 jours. Et là, c'était une grande réunion internationale, plus de 1000 personnes. Et là, nous étions contents de retrouver des anciens amis. Et enfin, j'ai fait des visites privées. Et d'abord, je suis allé à Kisii, au Kenya. Pourquoi ? Puisque ces jours-ci, on défie les ophtalmos africains pour qu'ils puissent développer quelque chose dans le cadre d'entrepreneuriat. Et là, c'était un collègue Kenya qui est ici au milieu, avec un collègue ougandais. Nous sommes allés visiter son centre, financé par des amis à l'extérieur. Et vraiment, c'est quelque chose de top. Et on défie les Africains pour pouvoir faire quelque chose qui peut vraiment ne pas beaucoup dépendre de l'extérieur. Donc voilà, des grands projets qui commencent, ça fait 2 ans, et nous sommes allés là-bas, il a tout l'équipement possible, et il loue ses grands bâtiments, et c'est vraiment, il a quitté Nairobi pour aller en milieu rural. Et c'était pour nous un grand défi. Et voilà. Maintenant, quels sont les grands défis que nous avons ? Il y en a beaucoup, franchement. Comme vous voyez ici, ça c'est l'autoroute... L'autoroute de Bounia qui va à Mahagui. Et franchement, je suis allé dans Uber. Dans le Uber, j'ai trouvé qu'il y a, c'est, il y a le nom pour cette route. C'est la nationale NV7. Mais voilà l'état de cette route. Et comme vous voyez là-bas, vous pouvez passer beaucoup de temps. Et on utilise des moyens impossibles. Ça, ce n'est pas une camionnette. C'est une voiture, en fait. Et comme il n'y a pas de porte-bagages, on met carrément le bagage là-bas. Et ça, c'est une autre voiture qui se débrouille, en fait, dans la boue. Et ça, ça relie l'Ouganda à Bunia. Il y a beaucoup de choses qui sont transportées par ces véhicules. Et voilà, les sujets de prière. Comme vous pouvez... Fanny m'a dit que j'ai oublié la situation politique, qui sont des défis. Et comme vous le savez, en décembre, normalement, on devrait avoir les élections. Et en octobre, il y a eu les dialogues intercongolais. Et les élections ont été reportées. Mais on ne sait pas s'il y aura quelque chose en décembre ou pas. Et généralement, le 19 et le 20, il y a quelque chose. Pourquoi ? Parce que la Constitution dit que 3 mois avant les élections, le mois de décembre, la fin du mandat, on doit pouvoir annoncer la date des élections. Ce sont des grands défis, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais en gros, on a retardé ça pour l'année 2018. Sujet de prière, rapidement. L'avenir de la RDC, surtout les élections, retardées pour 2018. Les conditions difficiles de travail que vous avez vues, c'est juste, on a juste épinglé ça rapidement. Et le développement de CEMADEF, stabilisation et puis sa croissance. Et après la visite privée au Kenya, je rêve faire quelque chose à Arua, en Ouganda, pour servir 3 pays, le nord, ouest de l'Ouganda, le nord-est de la RDC et le sud du Sud-Soudan. Un grand défi, pourquoi il y a 2 ophtalmos, un a abandonné la pratique, il a préféré ouvrir un bar qui rapporte rapidement l'argent, et un autre sert de l'autre côté. Et toute cette région manque un personnel, et je ne vais pas rentrer dans la clinique, mais on veut aider les jeunes qui sont formés à pouvoir faire quelque chose, un grand sujet de prière. Et enfin, pensez également à nos enfants. Celui de Londres, il y a un en Ottawa, il y a 2 qui sont avec nous au Congo. Voilà, merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Fanny. Nous n'allons pas prolonger maintenant ce temps. Nous allons avoir le repas canadien. Tous ceux, comme il a été dit, qui, même si vous n'avez rien apporté, on partage. Et puis, même l'invisible... Et nous aurons peut-être l'occasion alors de prier, plus particulièrement pour la mission évangélique Braille, et puis pour la RDC et les sujets qu'on a vus. Alors, bon dimanche à chacun, il y a le café, et voilà. À bientôt, à tout à l'heure.